quotidien avec Hélène Denis.
Il y a du soleil, c'est merveilleux, 18 février 2026, un petit air de printemps ce matin, en tout cas c'est peut-être dans ma tête, je sais pas, j'entendais les oiseaux chanter, il faisait beau, et la neige qui commence à fondre, mais j'ai l'impression que c'est temporaire, pas j'ai l'impression, mais selon Environnement Canada et Météo Média, il y a de la neige qui s'en vient vers la fin de la semaine, et ça réjouit Mathieu Tessier.
Oui.
Un amateur de neige.
Oui, mais moi, je suis content quand on est sous zéro la nuit et qu'on commence à être au-dessus de zéro le jour. C'est le sirop d'érable qui coule.
Oui, 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 mais ça s'en vient, mais pas tout de suite. Là, il fait quoi? Moins 3?
Moi,
mais...
je caresse tous les érables que je croise.
Ah oui? Oui.
C'est pas tous des érables à sucre, là, mais...
Ils caressent des érables.
Oui, voilà.
Eh bien, alors, ben Mathieu est là, comme vous l'avez constaté. Et celle qui rit, ben, c'est Isabelle Falardeau. Allô?
Bonjour.
Isabelle, épicerie volée pour manger, c'est une chronique de Boucard Diouf qui vous a touchée.
Ben oui, j'ai vu sa chronique de Boucard Diouf, puis j'ai vu aussi passer plusieurs messages sur des réseaux sociaux, des personnes que je suis, qui apparemment, c'est une nouvelle tendance, malheureusement, les gens qui volent à l'épicerie simplement pour se nourrir. Alors, oui, on va parler de ça, malheureusement.
Merci, merci. C'est quand même important. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, hein, parce qu'il y a exact. Des réalités très difficiles pour plusieurs personnes qui arrivent difficilement, justement, à joindre les deux bouts et à manger à leur faim. Serge est devant moi. Lui, il s'est plaint du froid. Alors, je ne vous comprends pas. Enlevez vos bretelles, puis ça va bien aller. Pas rapport. Alors, Serge, vous allez nous présenter une pionnière de la photographie.
Oui, elle fut la première photographe professionnelle dans l'Est du Québec. Alors, c'est Marie-Alice Dumont. Alors, c'est un article du Devoir du 8 janvier de Jean-François Nadeau.
Merci beaucoup. Et il y aura d'autres chroniques aussi ce matin, une de François La Rochelle qui était Jeffrey Epstein et pourquoi le scandale l'entourant est-il si médiatisé? C'est le sujet de sa chronique Actualité internationale aujourd'hui et la chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte. Louise Véronique, tu as vu 3 films, Montréal ma belle, Dans la cuisine des Nouyennes et le film Lydia et le vaisseau des tempêtes qui ouvrira le FIFEM cette année, le Festival international du film pour enfants de Montréal, qui commence dès demain, le jeudi 19 février. Et nous, on ouvre l'émission avec une chanson de Comment de bord.
Place que tes détails diffèrent.
Je veux pas une chanson de Command de bord.
Merci Mathieu. À la une du Devoir, rapport Galant, Duranceau veut punir les coupables de sa clique. La ministre juge qu'au gouvernement, les responsables ont déjà payé le prix du fiasco. Comme son chef François Legault, la ministre a affirmé attendre plutôt l'avis du procureur général du Québec sur d'éventuels recours juridiques. Selon des experts, des poursuites comme celles qu'envisage Québec seraient possibles, mais loin d'être évidentes, la loi sur la SAAC donne notamment une certaine immunité à ses dirigeants, si tant est que leur geste ait été accompli de bonne foi. Dans un rapport déposé lundi, la commission d'enquête sur le virage numérique de la SAAC a conclu que la Société d'État avait menti sur ce projet pendant des années dans ce qui est décrit comme une action consciente pour cacher les coûts de cette aventure. Le rapport révèle aussi que le gouvernement Legault savait depuis 2023 que le projet prenait des airs de sortie de route. On ne se cachera pas de ça. On aurait dû être plus pointilleux, a concédé Mme Duranceau. Maintenant, à un moment donné, quand tu te fais mentir, il y a une limite à ce que tu vas avoir comme réponse. Alors, je pense que ceux qui auraient dû poser plus de questions ont payé le prix de ne pas avoir posé assez de questions, a-t-elle ajouté en réponse à une question sur la responsabilité ministérielle. Un autre titre à la une du Devoir de ce mercredi 18 février 2026, Défense nationale, Ottawa mise sur un bouclier canadien. Avec sa nouvelle stratégie industrielle de défense, le gouvernement Carney compte faire plus d'achats militaires au pays et moins aux États-Unis. Et l'appel du danger des sports d'hiver a mis Milan-Cortina descendre à 120 km/h, une piste glacée la tête la première à l'aide d'une luge ou bien patiner à toute vitesse, à quelques centimètres d'autres compétiteurs qui sont à un mauvais coup de patin d'une chute, fait partie du quotidien de nombreux athlètes. Qu'est-ce qui les motive à pratiquer ces sports d'hiver qui comportent une importante part de danger? Le Devoir se penche sur la question avec des psychologues spécialisés en sport. Il y a des raisons biologiques, psychologiques et sociales pour expliquer que quelqu'un s'intéresse à l'intensité, au risque. Décortique d'emblée Linda Paquette, professeure agrégée en psychologie sociale à l'Université de Québec, du Québec à Chicoutimi. Ensuite, on y va avec la presse Plus qui parle d'une histoire épouvantable. Je me disais qu'il allait me tuer, poignardé par un garçon qu'elle avait rejeté. Une adolescente raconte à la presse son histoire qui rappelle tristement la série Adolescence. C'est un dossier de Léa Carrier. Pourquoi elle m'a fait ça? Parce que je l'ai rejeté. C'est pour ça qu'il m'a poignardé. Jade, prénom fictif, n'était même pas tout à fait réveillée de l'anesthésie quand elle a marmonné ces mots glaçants à sa mère assise à son chevet. À peine sortie du bloc opératoire, l'adolescente en était même convaincue. Le garçon qui l'avait sauvagement poignardé quelques heures plus tôt sur le terrain de l'école voulait la punir. Il voulait la punir d'avoir refusé ses avances, de ne pas l'avoir aimée comme il aurait voulu qu'elle l'aime. Elle avait 14 ans et lui, 17 ans. 5 mois après l'attaque, l'adolescente a accepté de raconter son histoire à la presse pour dénoncer la violence faite aux femmes et aux filles. « Je veux montrer au monde que ces choses arrivent dans la vraie vie, pas seulement dans les films », explique Jade d'une voix calme, mais assurée. Accusée de tentative de meurtre et de possession d'armes, son assaillant, que nous ne pouvons nommer puisqu'il est mineur, est actuellement détenu à l'Institut Philippe Pinel. De plus en plus de données le montrent. On observe une hausse de la violence chez les jeunes et particulièrement à l'égard des femmes. Et il y a des experts qui expliquent le phénomène. Ceux qui ont vu la série Adolescence noteront des ressemblances avec l'histoire de Jade qui a été poignardée sur le terrain de son école par un garçon qu'elle avait rejeté. et psychologue et professeure à l'Université du Québec à Montréal, Gaïda Hassan remarque une montée des discours qui encouragent les jeunes hommes à exprimer leurs forces ou leurs prérogatives sur les femmes. Et un peu plus loin, une autre psychologue, c'est Dr. Cécile Rousseau, qui est professeure à l'Université McGill et directrice scientifique de l'équipe Recherche-Action sur les polarisations sociales. Alors, je ne crois pas... Elle est pédopsychiatre. Alors, les discours masculinistes, selon elle, ne mènent pas nécessairement un passage à l'acte, nuance-t-elle. Le problème, c'est qu'on remarque actuellement d'autres phénomènes problématiques comme l'omniprésence des armes dans les écoles et la glorification de la violence. C'est la concurrence de ces phénomènes qui est préoccupante, pour ne pas dire dangereuse en ce moment, souligne la pédopsychiatre. Et un peu plus loin, elle dit « Si la notion de consentement est aujourd'hui bien intégrée au programme scolaire, il faudrait aussi apprendre aux jeunes à gérer la rancœur ou le ressentiment », avance pour sa part cette docteur Rousseau. Et je termine avec le Journal de Montréal. « Le public gâche le spectacle. Encore des tatas dans la salle. » Je ne sais pas si vous avez vécu ça, d'être entouré d'un tata ou d'une tata. Je ne sais pas si ça se féminise. En tout cas, tout le monde est dans le même bateau. Vous parlez au téléphone cellulaire pendant un spectacle, si vous ne l'éteignez pas, votre téléphone cellulaire, ils n'ont rien compris malgré la sensibilisation et les dénonciations publiques. Des spectateurs sans savoir-vivre continuent de gâcher l'expérience du public dans les salles de spectacle québécoises. On parle de clientèle cocktail, donc des personnes qui arrivent un peu cocktail, justement, qui arrivent en état d'ébriété et qui parlent fort, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de gâcher le plaisir de plein de monde, notamment ceux qui font le spectacle sur la scène. Des gens qui se parfument trop, des gens qui placotent. Alors, comment se comporter dans une salle de spectacle? Moi, je dirais que plus vite on la fréquente, plus vite on l'apprend comment se comporter. Et il y a Sophie Durocher qui raconte son calvaire, les pas de classe en spectacle. Elle était à Évangeline et son plaisir a été gâché par, entre autres, une personne qui a à peu près tout filmé le spectacle. Et le moment de grâce offert par Nathalie Simard a été gâché par cette personne. Elle écrit, mettons, que c'est difficile d'être ému par la voix puissante de Nathalie quand tu as un tapon qui te cache la vue avec son cellulaire tenu à bout de bras. J'avais envie de lui prendre son téléphone et de le garrocher jusqu'en Acadie. Nos salles de spectacle sont remplies de pas de classe, les tatas qui répondent au téléphone en plein spectacle, les nonos qui se lèvent 15 fois pour aller pisser pendant un spectacle d'une heure et qui sont évidemment assis au beau milieu de la rangée. Vous n'êtes pas dans votre salon. Ça, c'est moi qui l'ajoute.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut. Sur toi, sur moi. folle, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. J'espère pas trop mauvais, mais jamais plus je ne te dirai salut. C'est encore moi. Salut.
Salut, c'est ce qu'on appelle s'approprier une chanson, la faire sienne, grand succès de Joe Dassin, que vous avez peut-être reconnu, qu'on trouve sur l'album d'Étienne Copé intitulé « Un album hommage à Joe Dassin ». Boucard Diouf, collaboration spéciale dans la presse plus, son plus récent article, je crois bien, s'intitule « Épicerie, volée pour manger ». Ça a été publié récemment, Isabelle.
Oui, effectivement, c'était un peu le, pour célébrer la Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est pour célébrer, mais c'est paru le 14 février. Et donc, Boucard Diouf commence par nous dire « Il y a quelques semaines, j'ai rencontré dans une épicerie un monsieur d'origine marocaine qui poussait un panier. Il m'a reconnu et on a échangé des mots sur le soccer. Puis j'ai remarqué qu'il ne mettait rien dans son panier. Intrigué, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'en vérité, il n'était pas un client comme les autres. Il faisait semblant de faire son épicerie pour épier les voleurs, surtout dans le rayon de la viande. Et il m'a expliqué avec empathie que les gens étaient de plus en plus nombreux à voler de la viande parce qu'ils sont incapables de l'acheter. Et apparemment qu'ils déchirent l'emballage, mettent la viande sous leur manteau et foncent vers la sortie. Et donc, c'est comme ça que ça commence la chronique. Et c'est vraiment un phénomène répandu, non seulement les vols de nourriture, mais les personnes qui sont engagées spécifiquement pour surveiller les voleurs, pour non pas habillés en gardien de sécurité, mais vraiment incognito.
Mm-hmm. Comme s'ils faisaient eux-mêmes leur marché.
Voilà. Et le monsieur continue, il dit à Boucard Diouf, je te jure, il m'arrive de fermer les yeux devant certains cas. Quand c'est une mère de famille que je prends la main dans le sac, au risque de perdre mon travail, il m'arrive de fermer les yeux. Et donc, c'est ça, l'épicerie est devenue si dispendieuse que même pour une famille de la classe moyenne, elle avale une grande partie du budget mensuel. Et quand les spécialistes abordent le sujet, ils parlent des denrées alimentaires qui ont augmenté plus vite que l'inflation générale. Et effectivement, c'est vrai. Mais pendant que le consommateur moyen se gratte la tête parce qu'il était capable de comprendre pourquoi, la précarité alimentaire conquiert de nouveaux territoires dans les masses laborieuses déjà sévèrement affecté par la crise du logement et l'augmentation du loyer. Ça, c'est les mots de Boucard Diouf. Et parallèlement, et ça, je vous en ai déjà parlé, mais on le voit de plus en plus. Moi, ça, c'est moi qui parle. J'ai une veille d'articles qui parlent d'alimentation, puis c'est incroyable la quantité qui parle de banques alimentaires, du fait que les gens, maintenant, qui ont. Et ça, c'est deux parents, les deux, ils travaillent, puis quand même, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils doivent se tourner vers les banques alimentaires pour nourrir leur famille. Et donc, c'est ça, les banques alimentaires voient arriver dans leurs nouveaux locaux cette nouvelle clientèle de travailleurs qui ne sont juste plus capables d'arriver. Dans ce pays immensément riche, hein, quand même, on n'est pas un pays du tiers-monde, le Canada, mais on est rendu à ce triste constat. Et Boucard Diouf trouve qu'on ne tient pas nos politiciens redevables des promesses et mystifications qu'ils dégainent devant la presse pour nous donner l'impression de faire quelque chose. Et là, il se permet plus spécifiquement de nous parler du cas de François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et actuel ministre des Finances et du Revenu national au gouvernement Carney. Ce monsieur, dit Boucard Diouf, qui semble avoir réponse à tout, occupait le portefeuille de l'innovation, des sciences et de l'industrie sous l'ancien gouvernement libéral de Justin Trudeau. Et alors que le sujet de l'inflation alimentaire et des prix de l'épicerie était sur toutes les lèvres, M. Champagne nous a dit prendre le taureau par les cornes pour aider la population. En septembre 2023, vous vous en souvenez peut-être, moi j'ai lu plusieurs articles là-dessus. Donc, forcé par la grogne populaire, M. Champagne a réuni les dirigeants des 5 plus grandes chaînes d'épicerie du Canada pour leur parler dans le casque. Ça, c'est Boucard Diouf qui dit ça. Et on nous a montré cette rencontre qui a été tenue à Ottawa entre le ministre Champagne et les dirigeants de Loblaw, Metro, Sobeys, Walmart et Costco, donc les 5 grands qui nous vendent de la nourriture au Canada. Et à la sortie de la réunion, avec tambours et trompettes, M. Champagne nous a expliqué avoir fait comprendre aux grands patrons que le gouvernement s'attendait à des mesures concrètes de leur part pour stabiliser et même idéalement pour réduire les prix de certains aliments. Il voulait que les chaînes d'épicerie travaillent avec Ottawa pour trouver une façon de soulager les millions de Canadiens en situation de précarité alimentaire. Et donc, les grands patrons sont repartis avec une échéance imposée par le gouvernement et ils devaient présenter à M. Champagne des plans concrets. Le gouvernement se donnait aussi le droit d'intervenir avec des mesures qui excluaient pas des modifications législatives et la création d'outils de surveillance et de transparence pour éviter que les dérives dénoncées par la population deviennent la norme. Et à la fin de ce grand blabla très médiatisé, M. Champagne nous a décrit son initiative comme étant le début de véritables solutions que le gouvernement s'efforcerait de mettre en œuvre. Et bon, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça.
Oui, dans un cul-de-sac.
Oui, c'est ça. Cette grande montagne communicationnelle a accouché d'une minuscule souris, selon Boucard Diouf, et selon ce qu'on peut constater aussi. C'est pas passé grand-chose, au fait. Mais évidemment, ce n'est plus le problème du ministre qui est occupé à faire des promesses ailleurs. Il a changé de ministère depuis. Malheureusement, la mémoire politique des électeurs étant bien courte, faire des promesses sans se sentir redevable est presque banalisé dans les cercles du pouvoir, selon Boucard. Depuis la pandémie de COVID-19, les prix de beaucoup de produits de base sont très élevés. Et maintenant que le virus s'est éloigné, ben c'est le chaos imposé par les droits de douane du gouvernement Trump, les fameux tarifs, qui est devenu une nouvelle excuse pour justifier la cherté des produits alimentaires. Selon Boucard Diouf, ainsi va le capitalisme. Et ici, les opportunités et les crises marchent main dans la main. Et l'avenir appartient à ceux qui savent anticiper et tirer profit des bouleversements sociaux. C'est triste, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui trouve le moyen d'en profiter. Et pourquoi est-ce que nos élus ne peuvent pas jouer les garde-fous pour empêcher les abus et éviter que cette grande et déjà très riche industrie ne transforme les exceptions en normes? M. Diouf pose la question, si on laisse ce marché s'autoréguler, les caisses risquent ultimement de ressembler à des lieux de prélèvement d'une taxe sur le droit de manger pour vivre. Donc, les caisses d'épicerie, évidemment. Là. On est rendu que c'est ça, quand on passe à la caisse de l'épicerie, on paye notre taxe sur le droit de manger pour vivre. Et Boucard Diouf termine avec cette grande question, qu'est devenu votre promesse, M. Champagne? Maintenant que les petites épiceries de quartier ont disparu de bien des endroits, laisser notre alimentation entre les mains de quelques géants sans surveillance relève d'un grand manque de vision politique.
Évelyn dans les dents.
Voilà. Alors, on pose des questions, on n'a pas beaucoup de réponses, mais il faut continuer de se battre pour avoir ces réponses.
Merci, Isabelle. La mémoire du pasteur noir Jesse Jackson, salué aux États-Unis, de Donald Trump à Barack Obama. La classe politique américaine a salué mardi la mémoire du pasteur Jesse Jackson, figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains et personnalité démocrate mort à 84 ans. Soulignant son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits de la personne, ses proches ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait rendu mardi son dernier souffle, paisiblement entouré par sa famille. Toute sa vie, le révérend Jackson a pris une place considérable dans la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis, devenant une figure de l'histoire récente du pays. Présent à Memphis lorsque Martin Luther King y a été assassiné en 1968, il a assisté 40 ans plus tard à la victoire de Barack Obama. Des images le montrent alors les larmes aux yeux dans la foule des partisans du démocrate célébrant sa victoire électorale à Chicago. Autre nouvelle tirée du Devoir, Ottawa appelé à aider Cuba face au blocus américain. Le premier ministre Mark Carney fait face à des appels de plus en plus pressants pour qu'il dénonce les États-Unis qui ont renforcé leurs restrictions sur l'approvisionnement en carburant de Cuba ou pour qu'il envoie de l'aide à ce pays. Depuis plus d'un an, Affaires mondiales Canada met en garde les voyageurs contre les pénuries de carburant, d'électricité, de produits de première nécessité, notamment de nourriture, d'eau et de médicaments dans la majeure partie de Cuba. En janvier, l'île a perdu sa principale source de carburant lorsque les États-Unis ont pris le contrôle des réserves de pétrole du Venezuela. Les compagnies aériennes canadiennes ont suspendu leurs vols vers l'île, invoquant des pénuries de carburant. Le président américain Donald Trump a également menacé d'imposer des droits de douane à tout pays vendant aux fournisseurs du pétrole à Cuba, ce qui a incité l'île à rationner l'énergie ces derniers jours. Et on peut voir aujourd'hui, c'est dans la presse, dans l'actualité internationale, Cuba qui est envahi de déchets parce que les camions de vidange ne passent pas. Il n'y a pas de carburant pour les faire fonctionner. Et donc, il y a des détritus partout, partout. Restez avec nous. L'émission continue après la pause. Et la chanson?
Vous pouvez... Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je me tutoie depuis déjà longtemps. Je me sers, je me sors, je me berce, je me borde et je m'endors. Fatigué de moi, je rêve à toi. Je te majuscule, je te point d'exclame, je te vous vois. Mais lorsque je nous traite d'union, ça me réveille. Or je me minuscule, je me rendors.
Jim Corcoran, je me tutoie.
Ah oui, 47 secondes de musique. Lumière sur une pionnière de la photographie. Marie-Alice Dumont, c'est un article que vous avez trouvé dans Le Devoir, cher
oui,
Serge.
Publié le 8 janvier, un article de Jean-François Nadeau. Alors, restée dans l'ombre du grand récit de l'histoire de la photographie, Marie-Alice Dumont occupe aujourd'hui sa place dans l'histoire du patrimoine visuel québécois. Née en 1892 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, cette femme est considérée comme la première à exercer la photographie professionnelle dans l'Est du Québec. Elle compte, parmi les premières au Canada, à opérer seule un studio. Une exposition itinérante, ainsi qu'une présentation virtuelle de son travail, gracieuseté du musée du Bas-Saint-Laurent, promettent de la faire mieux, connaître pour le public. Cette redécouverte s'inscrit aussi dans un effort plus large de réévaluation du rôle des femmes dans l'histoire de la photographie, elles qui ont longtemps été reléguées aux marges des récits dominants malgré leur présence active et durable. Il reste plein de mystères autour d'elles, affirme la conservatrice Oriane Asselin van Coppenol. Elle est décrite par certains comme marginale, un peu spéciale. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire dans la société? Nous avons 250 000 photographies au musée et celles de Marie-Alice Dumont, environ 10 000 photos, sont les seules qui soient l'œuvre d'une professionnelle. Les autres, c'est des photographies amateurs. Dans les années 1920, Marie-Alice Dumont s'installe un studio dans la maison familiale. Dans une entrevue filmée en 1981, elle affirmait que c'est parce qu'elle n'était pas capable de faire de la grosse ouvrage que son frère, prêtre au collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière, l'avait poussée vers la photographie. J'ai essayé de retrouver l'entrevue. J'ai fait des recherches hier, puis j'ai rien trouvé. J'ai pas. Ben ça doit exister là, mais c'est pas sur YouTube ou sur les sur le site général d'internet. Le père.
Je m'excuse, j'ai ri. J'essayais de vous aider, mais je ne savais pas trop où vous alliez.
Ben moi, quand je fais une recherche, je vais sur Google, puis je tape.
Oui, oui.
Puis là, je vais voir après ça sur
Google,
YouTube.
Google ne connaît pas ça? Google? Un moteur de recherche? Mais non, je n'y ai
pas. Hey.
Mais il faut continuer les recherches. Hein? Quelquefois, ce n'est pas nécessairement si évident que ça.
Ouais.
Mais continuez votre lecture, très cher.
Alors, le père prend l'engagement de sa fille envers la photographie très au sérieux. Il va réaménager la maison pour installer une grande baie vitrée spéciale afin qu'elle puisse éclairer au milieu ses sujets. Un bon papa. Sa carrière de photographe s'étendra sur plus de 3 décennies. Elle utilise notamment un appareil de table à soufflet de grand format avec un objectif qu'elle avait fait venir d'Angleterre au prix fort. Qu'est-ce que cette célibataire endurcie photographie? La vie du village, les graduations, les processions, la religion, les vivants et les morts. Des portraits de studio également. À la différence des autres photographes de la région, la lumière semble plus douce chez elle. Il y a une attention, une approche particulière, affirme Olivier Guimont. Les recherches de cet historien ont conduit à la réalisation d'une exposition virtuelle différente de l'exposition itinérante. L'exposition virtuelle, on peut la voir encore sur... Vous tapez Google, vous tapez le nom de la dame. Et puis, l'exposition itinérante, elle était au mois de... tout l'été dernier, 2025, mais ils ont comme projet de la faire, de la présenter à travers le Québec.
Ah oui.
Il n'y a pas de date encore, mais il faut surveiller pour la voir. Ça sera sûrement très, très intéressant de l'en voir. L'exposition itinérante se veut plus près du travail de création, explique Oriane Asselin, Van Coppenol. Nous misons sur un dialogue entre les photographies de Marie-Alice et celles de l'artiste Raymonde April. S'intéresser aujourd'hui à Marie-Alice Dumont, c'est accepter de déplacer le regard, de quitter les grands récits héroïques pour reconnaître la valeur documentaire, sociale et mémorielle d'un travail enraciné dans la vie de tous les jours, loin des grands événements. C'est aussi comprendre que l'histoire de la photographie ne se construit pas uniquement dans les capitales culturelles, mais aussi dans les villages, les studios modestes et les archives paroissiales, qui sont très riches. Comme femme, elle a accès à un univers intérieur où les hommes seraient moins bien accueillis. C'est d'ailleurs pour cela, en bonne partie, qu'on s'est d'abord intéressé à elle très souvent, explique l'historien Olivier Guimont. Son regard précis témoigne d'un rapport direct au réel, d'un ancrage au monde paroissial qui est le sien. Cette apparente modestie de l'entreprise de Marie-Alice Dumont constitue précisément l'un des angles morts de l'histoire de la photographie, longtemps écrite à partir de critères esthétiques, héroïques et masculins. C'est certain que je fais de Marie-Alice Dumont une lecture plus féministe, explique la conservatrice Oriane Asselin Van Coppenol, avec de la joie dans la voix. Elle rappelle que les femmes ont souvent occupé des positions périphériques, produisant des images jugées mineures parce ancrées dans le quotidien, le domestique ou le local. Or, ces espaces, le village, la famille, la communauté paroissiale, sont aussi des lieux de pouvoir, de transmission et de mémoire.
Ils en disent beaucoup.
Oui. Il y a peu de mentions jusqu'ici au sujet de Marie-Alice Dumont. Pourtant, son fonds d'archives est exceptionnellement riche. J'espère que notre travail va faire comprendre que son fonds d'archives est important et mérite d'être considéré, commente l'historien Olivier Guimont. Au 19e siècle, sans doute près de 200 femmes auraient tenu des studios de photos au Canada. Installée près de l'église Notre-Dame à Montréal, une certaine Madame Fletcher y exploite en 1840-1841 un studio de photos. La photographie, ça remonte quand même assez loin, hein? C'est pas juste fin du 19e, c'est vraiment au milieu du 19e. Les photographies de Marie-Élise Dumont s'imposent désormais comme un jalon essentiel de l'histoire visuelle régionale et comme un exemple marquant de la contribution des femmes à la mémoire collective du Québec. Le livre que nous avons fait paraître au musée permet de découvrir une femme d'exception, assure la conservatrice. La directrice générale du musée du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Girard, se félicite pour sa part d'avoir présenté l'œuvre de cette photographe dans son établissement à l'occasion d'une nouvelle exposition. Cette exposition va donc circuler un peu partout au Québec, assure-t-elle. Les lieux d'accueil de cette exposition itinérante ne sont pas encore connus officiellement. Ils seront bientôt annoncés sur le site web du musée du Bas-Saint-Laurent. En attendant de voir les tirages authentiques proposés en divers lieux, le public peut compter sur l'exposition numérique qui l'accompagne, ainsi que sur le catalogue que le musée lui a consacré. Je suis allé hier, j'ai regardé l'exposition numérique, c'est vraiment bien, il y a des très, très belles photos.
Oui.
Et vraiment du monde rural, hein, et c'est ça qui est beau, le beau souvenir. Mais moi, j'aime bien ça parce que mes grands-parents étaient cultivateurs, alors c'est un beau souvenir quand je vois ça, ça me rappelle plein de choses.
Oui, j'imagine. Ouais. Mm-hmm. Et le catalogue dont vous parliez, on peut se le procurer, j'imagine, sous la direction d'Olivier Guimond. On parle pas ici du comédien là, qui nous
non,
a
non, ben non.
Oriane Asselin Van Coppenolle, musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. Je vois qu'il y a... Il compte 196 pages.
Oui.
A été publié en 2025.
Oui. Mm-hmm. Alors, imagine qu'on peut le commander par en envoyant un message au musée, là, ou dans les... Peut-être Renaud Bré aurait ça.
Peut-être que oui, peut-être que
ouais.
Non. Alors, vous ferez une recherche pour nous,
oui.
Serge. On compte sur vous pour nous donner les réponses. Pour l'instant, bien, je présente le texte que vous avez lu. On pourrait redonner le titre pour les auditeurs et auditrices, Lumière sur une pionnière de la photographie,
ouais.
Marie-Alice Dumont, et donner le crédit aussi à celui qui a écrit cet article publié le 8 janvier 2025, Jean-François Nadeau. Alors, ben là-dessus, on se dit au revoir. À moins que vous ayez une brève pour nous, avant de nous quitter.
Oui, j'en ai. Le pantalon, ça vient d'où?
Le pantalon...
Cet habit est apparu... Cet habit...
Isabelle a posé une question.
Oui?
Oui?
Ouais, non, le mot ou l'objet?
L'objet?
J'ai aucune idée.
C'est apparu en Chine entre le 13e et le 10e siècle avant Jésus-Christ.
Made in China.
Oui.
Oh, OK.
Composé de deux rectangles évasés et d'un renfort à l'entrejambe, il sert à améliorer le confort des cavaliers, probablement échaudés par de longues et douloureuses chevauchées en pagne. Le pantalon mettra du temps à s'imposer en Occident. Dans l'Antiquité, grec et romain le juge ridicule et vulgaire, tout juste bon à vêtir les barbares. Au 16e siècle, les aristocrates portent des chausses reliées par une braguette, un modèle qui inspirera leurs culottes au siècle suivant. Les classes populaires adoptent pour leur part une version plus simple et pratique du pantalon, assez proche de sa forme actuelle. Ces sans-culottes, comme on les surnomme durant la Révolution, finiront par faire des émules. À partir des années 1830, tous les hommes, riches ou pauvres, portent le pantalon. Les femmes, elles, devront attendre les années 1960.
Eh oui.
C'est indécent, là, une femme qui portait le pantalon. Là.
Est-ce que vous êtes plus pantalon que jupe ou robe, Isabelle?
Ah, définitivement, oui. J'aime beaucoup mieux les pantalons.
Ouais.
Quand je porte une robe, maintenant, j'ai tout le temps des leggings en dessous parce que je... Je sais pas. J'aime me sentir enveloppée, j'imagine.
Oui.
Mais c'est plus, on se sent plus libre aussi qu'avec une robe, c'est certain.
Je vous comprends. Je suis pas mal dans votre équipe. Alors là-dessus...
Ah, oui, j'aurais le Kleenex, l'origine du Kleenex.
Oui, le Kleenex, ben ça, c'est une marque, là, le
oui.
mouchoir.
Non, mais le principe du Kleenex.
OK.
Oui. J'y vais?
Allez-y, avant qu'on éternue.
Tout débute avec la Première Guerre mondiale, lorsque l'entreprise Kimberly-Clark met au point un papier crêpe qui sert de filtre pour les masques à gaz.
Oh.
À la fin du conflit, la société américaine recycle son innovation et suit la marque Kotex, la transforme en serviette hygiénique. Sans succès. Rendu plus doux et plus fin, le produit est de nouveau commercialisé en 1924 sous le nom de Kleenex. La cible, les femmes toujours, mais cette fois pour le démaquillage. 5 ans plus tard, le directeur de la recherche, enrhumé, utilise un Kleenex pour se moucher. Un petit... comme ça, il étudiait ça. C'est une révélation. il abandonne définitivement son vieux mouchoir en tissu, un geste que vont adopter la suite des millions de consommateurs à travers le monde.
Bon, alors là-dessus, je vous dis un grand merci, Serge Bradin ainsi qu'Isabelle Falardeau. Passez du bon temps avec mon collègue Denis Martin Chabot qui sera avec vous dans les prochaines semaines.
Voyez.
Bonne vacances.
Bye.
Qu'on marchait sans autre but, plus de passé, de main fourbue, dans le néant du froid de la rue. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées de ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Mes derniers seront les premiers. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité. Un billet sur le trottoir, dans un journal d'autres histoires, un rayon de soleil. Une fleur abandonnée, ce que les autres ont laissé de côté, plus assez neuf, plus assez. Quand t'as placé tout dehors, ne reste que ces phrases comme il au trésor. Les derniers seront les premiers. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité.
Les derniers seront les premiers. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité.
Les derniers seront les premiers, une chanson bien sûr de Céline Dion.
Chronique Actualité internationale maintenant avec François Larochelle, l'ancien diplomate canadien. Bonjour,
bonjour
François.
Bonjour Mme Denis.
On avait décidé de s'appeler...
Oui, bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Mais je vais continuer de vous voyer.
Oui, d'accord. Ben moi aussi, je vous vois tout le monde presque à la radio. Mais c'est vrai, je vous ai mis un petit peu devant le fait accompli parce qu'on s'appelait par nos prénoms ondes et puis en ondes, non. Mais là, ça devient plus compliqué.
Voilà.
Allons-y donc avec... Puis on se connaît quand même depuis un petit bout de temps, là. Alors, François Larochelle, donc, le 30 janvier dernier, la publication de millions de documents a révélé l'ampleur incroyable du réseau des relations américaines et internationales développé par le financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Mais qui était ce Jeffrey Epstein et pourquoi ce scandale est-il si médiatisé? On en entend parler presque tous les jours.
Bien, au départ, il s'agit d'une vaste affaire d'exploitation sexuelle de jeunes femmes au profit de ce financier américain du nom de Jeffrey Epstein, qui est mort en prison d'ailleurs à New York en 2019. Ce New-Yorkais d'origine a fait fortune dans la finance, principalement détournant à son profit des fonds de gros portefeuilles dont il avait la gestion. Son argent lui servait à développer son réseau de contacts par de la philanthropie, des dons à des campagnes politiques, mais aussi en utilisant des jeunes femmes. En 2005, il est visé par une première plainte déposée par les parents d'une adolescente de 14 ans, affirmant avoir été agressée sexuellement par le millionnaire. Epstein plaide coupable en 2008 dans le cadre d'un accord avec la justice de l'État de Floride. Après 13 mois de prison, il ressort libre en 2009 avec une assignation à résidence d'un an. Il est alors visé par de nouvelles accusations de violences sexuelles sur des mineurs, mais la plupart des procédures engagées se terminent par des accords financiers. En 2018, le journal le Miami Herald identifie 80 femmes déclarant avoir été victimes du financier. Epstein est finalement arrêté un an plus tard, poursuivi pour agression de dizaines d'adolescentes entre 2002 et 2005. Placé en détention en attente de son procès à New York, il est retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019. La police alors conclut à un suicide, mais de nombreuses théories conspirationnistes prétendent qu'il a été assassiné pour l'empêcher de révéler l'implication de personnalités puissantes. C'est à ce moment-là alors que cette affaire éclate véritablement aux yeux du grand public et prend une tournure internationale. L'ex-compagne d'Epstein, Ghislaine Maxwell, a été, quant à elle, condamnée en 2022 à 20 ans de prison. Elle recrutait notamment les victimes féminines d'Epstein. Elle purge actuellement sa peine, mais essaye de négocier pour obtenir un pardon de Donald Trump. Certains prétendent qu'Epstein travaillait pour des services d'espionnage ou dirigeait un réseau de chantage lucratif. Rien de tout cela ne peut être exclu, mais franchement, personne ne sait, ne connaît l'usage que faisait Epstein des informations confidentielles soutirées à ses contacts. Mais c'était sûrement un escroc sans scrupules. Au total, on pense que plus de 1000 femmes auraient été victimes de ces agissements, incluant, comme on sait, beaucoup de mineurs.
Mais d'où viennent tous ces documents rendus publics?
Bon, il s'agit de documents judiciaires, mais aussi d'archives personnelles d'Epstein. Certains fichiers n'ont pas été publiés, d'autres ont été caviardés pour divers motifs. Des avocats de ces victimes se sont d'ailleurs plaints d'un manque de transparence, estimant que les fichiers étaient truffés de caviardages anormaux.
Les noms de plusieurs nombreuses personnalités apparaissent dans ce flot de documents rendus publics. Qui sont les plus connus jusqu'à maintenant?
Bon, pour les États-Unis, on y trouve abondamment le nom de Donald Trump, ainsi que celui de son ex-conseiller Steve Bannon et de Howard Lutnick, qui est le ministre actuel du commerce américain. Mais aussi, il y a les noms de Elon Musk, Bill Gates, là, qui a fondé Microsoft, ou le cinéaste Woody Allen. L'ancien président Bill Clinton apparaît régulièrement dans ses fichiers. Lui et sa femme Hillary doivent d'ailleurs être interrogés à huis clos devant une commission du Congrès américain sur leur lien avec Epstein les 26 et 27 février prochains. Trump et ses acolytes républicains tentent bien sûr par là de détourner l'attention de leur propre turpitude. À l'international, il y a évidemment eu en Grande-Bretagne l'ancien prince Andrew, qui a payé très cher ainsi que sa famille ses liens avec Epstein. En France, l'indéboulonnable ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, a été contraint de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe après les révélations sur des largesses financières consenties à sa fille par Jeffrey Epstein.
Il a été déboulonné finalement.
Oui, à 86 ans. Alors, il y a un peu de temps qu'il soit déboulonné. L'amitié entre Epstein et Peter Mandelson, ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Washington et ancien poids lourd du Parti travailliste, a déclenché une polémique qui a failli couler celui qui l'avait nommé à ce poste, le premier ministre britannique Starmer. Elle a cependant provoqué la démission du chef de cabinet de ce dernier et de son directeur des communications. L'ancien premier ministre norvégien, je vous excuserai, mon norvégien n'est pas très fort, là,
oh non?
Torborg Jagland, est quant à lui mis en cause pour avoir sollicité l'aide d'Epstein pour acheter un appartement alors qu'il était secrétaire général du Conseil de l'Europe. Lui et la princesse héritière de Norvège, Mette Marit, ainsi qu'un ancien ministre des Affaires étrangères norvégien qui, en fait, dirige maintenant le Forum économique mondial de Davos, font l'objet d'enquêtes par une commission spéciale du Parlement norvégien. Enfin, le conseiller de la sécurité nationale du premier ministre de Slovaquie a dû démissionner après la publication de ses courriels salaces avec Epstein.
Bon, alors, parmi tous ces noms, évidemment que l'éléphant dans la pièce, c'est Donald Trump, le président des États-Unis.
Clairement, parce que Trump, qui est un ancien magnat de l'immobilier de New York dans les années 90, était un proche d'Epstein. Il s'affichait à ses fêtes et a utilisé son avion. Le New York Times a identifié plus de 5300 fichiers mentionnant Trump dans les documents de cette affaire. Il assure avoir rompu avec lui en 2004 en raison d'un différend immobilier, mais franchement, c'est difficile de croire ce menteur compulsif. Pendant la campagne présidentielle de 2024, Trump a surfé sur les théories conspirationnistes autour du dossier Epstein, en dénonçant une supposée opacité de l'administration de Joe Biden et en promettant de rendre public l'ensemble des documents en possession de la justice. Mais une fois revenu à la Maison-Blanche, il s'est montré beaucoup plus réticent et a tenté de minimiser l'affaire. Le président américain s'est toutefois retrouvé soumis à la pression conjointe de sa base MAGA, réclamant qu'il tienne ses promesses ainsi que du Congrès américain.
Toute cette affaire nous fait poser des questions, nous interroge sur l'éthique des centaines de personnes dont les liens de proximité avec le financier sont désormais publics.
Oui, parce que la plupart d'entre eux ne pouvaient ignorer qui était véritablement le prédateur Epstein, mais ils préféraient probablement regarder ailleurs pour profiter de ses largesses financières ou autres. On peut au minimum constater leur complaisance envers un criminel sexuel condamné. Pour l'instant, aucune nouvelle poursuite n'est lancée aux États-Unis et à part quelques démissions de second violon, ceux qui sont mentionnés sont toujours en fonction, alors qu'à l'étranger, les démissions face au scandale se sont multipliées. Mais c'est vrai qu'avec Trump à la tête des États-Unis et sans boussole morale et un ministère de la Justice qui est à son service, lui et ses proches sont pour l'instant protégés. À moins que de nouvelles révélations n'apparaissent, ce qui n'est pas exclu. Une nouvelle expression inventée par des politiciens démocrates décrit désormais Trump et son entourage, la classe Epstein.
Oh, oui.
Elle risque de lui coller dessus pour pas mal de temps, car cette histoire est loin d'être terminée.
Non, en effet. Bien, merci d'avoir éclairé notre lanterne à propos de toute cette affaire, François Larochelle.
C'est moi qui vous remercie.
On se retrouve dans quelques semaines.
Voilà. Au revoir.
Tu regardes ton miroir et jamais tu n'as su vraiment te voir tel que tu es. Pauvre agneau, pauvre loup qui s'ignore. Les bonnes manières, tu dis les mots qu'on espère même dans le ventre de ta mère. Je sais que tu étais déjà fière.
ta prochaine fois. Trouve une défaite, tourne le dos et rentre chez toi. Les lumières éteintes, dis-moi si tu es ce que tu crois. La nuit quand tu rêves, oui, je sais que tu entends leur voix.
La chanson Agneau d'Ariane Roy.
Bon choix, Mathieu. Chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte qui s'en vient dans la prochaine demi-heure. Restez avec nous.
Vous pouvez.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre. Où viennent se poser des eaux. À Montréal, écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs. Pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal.
Je reviendrai à Montréal, une chanson de Robert Charlebois.
Oui, très belle chanson. Robert Charlebois qui l'interprétait, mais celui qui l'a écrite s'appelle Daniel quelque chose. Son prénom m'échappe. On y reviendra, cette chanson à 50 ans cette année. Montréal, ma belle, c'est le premier film dont va nous parler Louise Véronique Sicotte, qui est en studio. Bonjour, Louise Véronique.
Bonjour.
On va d'abord écouter la bande-annonce et puis on vous revient.
Parfait.
À partir d'aujourd'hui, je vais plus traduire pour toi. Je sais que t'es capable de parler français, fait que force-toi un peu, là.
Montréal est comme moi, une simple. Yo, c'est joyeux.
Toi et ton amour?
Oh, on est vieux couple. Comment tu as rencontré ton copain?
Sur ces deux rencontres.
Fait que t'es une vraie personne. T'es encore plus belle que sur ta photo. Mais c'est toujours gêné de même?
Avec toi, oui.
Mais t'es spéciale en tout cas. J'ai jamais rencontré une personne aussi gentille.
Je ne m'attendais pas, tu as une copine?
Alice, c'est pas ma copine, c'est une amie, ça n'a pas rapport.
Et moi, c'est quoi?
On n'a jamais dit qu'on était ensemble, c'était pas ça notre deal. Comment il t'a menacé? Hey, t'as peur de mentir, OK? Je comprends, t'as peur de faire face à la réalité.
Montréal, ma belle, c'est un film que vous avez vu, Louise Véronique Sicotte. C'est un film réalisé par, comment on prononce? Xiao Dan E.
Oui.
Allons-y comme ça.
Allons-y
le
comme
film
ça.
Est sorti le 13 février,
oui,
donc vendredi dernier.
Salle, oui, oui. Mm-hmm. Et en fait, c'est inspiré de sa propre histoire. Elle est...
À la réalisatrice?
À la réalisatrice. Elle est arrivée à Montréal il y a très longtemps. Et puis, donc, elle voulait partager sa propre expérience. Ce film raconte l'histoire d'une femme vietnamienne, chinoise, mais qui est très traditionnelle dans sa façon de vivre, dans sa relation de couple, vraiment, on pourrait dire, obéissante d'une certaine façon, et qui a réprimé son désir envers les femmes depuis longtemps. Et là, ça va être une sorte d'émergence, une sorte de retrouver ce désir et d'essayer de le capter,
de l'incarner
physiquement envers une autre femme. Alors, c'est un peu son évolution qu'on va...
Donc, cette femme était une lesbienne refoulée?
Refoulée, en fait, oui. Peut-être une petite histoire d'amour à l'adolescence et là, mm-hmm. pouf, tout à coup, il faut vraiment qu'elle rentre dans le rang.
Dans le moule. Elle a 50 ans.
Elle a 53 ans et c'est interprété par la grande actrice chinoise Joan Chen, qu'on a vu dans Twin Peaks, qu'on a vu dans Le Dernier Empereur. Donc,
ouais.
C'est une femme, vraiment, une productrice aussi, une réalisatrice, une grande actrice.
Très belle aussi.
Très belle, magnifique. Et elle a accepté de jouer ce rôle parce qu'on dit que c'est le premier long métrage à placer au cœur de son histoire une femme lesbienne chinoise dans la cinquantaine. Ça ne s'est pas fait auparavant.
Qui va donc rencontrer une Québécoise?
Une
ça
Québécoise.
Se passe à Montréal?
Montréal, absolument. Oui. Montréal, dans la canicule, dans l'humidité, dans la chaleur. Et c'est une jeune femme interprétée par Charlotte Aubin, dans la trentaine, plutôt volage, très libre. Alors, c'est un peu le choc des cultures, le choc des générations mm-hmm. aussi dans cette histoire. Et,
est-ce que ça vous a touché?
Ça m'a touché, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même plusieurs bémols, c'est-à-dire que, oui, l'actrice principale est très, très touchante, vulnérable, et aussi il y a tout ce qu'on appelle l'attirance et la résistance, le désir et la honte aussi, le malaise. Donc
il y a
tout
une famille d'impliqués
également. Une famille
également.
D'impliqués, bien sûr. Et c'est aussi le déchirement par rapport à l'exil quand ils sont arrivés ici. Les enfants sont très, très différents. Les enfants parlent français seulement. Le père vit beaucoup de frustration parce qu'il n'a aucun statut professionnel qu'il avait auparavant. Donc, c'est le choc aussi de voir sa femme s'ouvrir, se libérer,
s'épanouir. Oui.
Alors, mais il y a quand même certains raccourcis, je dirais, dans les étapes de son émancipation. On va quand même, on tourne un peu les coins ronds, puis je dirais que certains dialogues sont un peu clichés, plutôt à plat.
Donc, vous n'avez pas été convaincue.
J'ai pas été convaincue, mais par contre, bon, il y a une fin ouverte. Et ce que je pense, c'est que plusieurs femmes peuvent s'identifier aussi à ce type de femmes, non seulement les femmes d'âge mûr ou les lesbiennes, mais des femmes aussi qui veulent trouver leur propre identité, qui veulent sortir du moule.
Ça peut être quoi, thérapeutique?
Inspirant? Ça peut être inspirant, mm-hmm. oui. Je pense que ça peut être
inspirant. Montréal est bien filmé?
Montréal est filmé dans ses cafés, dans ses parcs, dans sa chaleur, dans ses rues
animées. Ah, mais ça fait du bien de voir ça aussi. Hein?
Oui, ça fait bien. Ça fait du bien. Et puis, la chanson du générique est interprétée par Lassa de Sela.
Ah!
Oui, donc...
Beau choix. Et je voulais aussi dire que le collègue Denis Martin Chabot, qui est ici, qui est animateur à Canal M,
oui.
a reçu la réalisatrice le 9 février dans le cadre de l'émission Quotidien. Alors, si ça vous intéresse, l'entrevue est disponible sur notre site site Internet. On passe maintenant à dans la cuisine des Nguyen. Moi, j'ai toujours dit Nguyen, mais paraît-il qu'il faut dire Nguyen, mais je pense que les deux sont bons. On va écouter un extrait de la bande-annonce.
Découvrez notre nouveauté, les Nemisa aux saveurs italiennes.
Figuration jeune femme brune méditerranéenne.
Bonjour, j'ai pour l'audition. Yvonne Nguyen.
Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 euros.
6 euros?
Ouais.
Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Je dois avancer.
Coucou maman.
Congrès. Qu'est-ce que tu fais ici?
Nhưng mà phải làm sao với con đây?
Mais moi ça va très bien.
Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, chẳng có nghề.
Tu fais de moi?
Non, moi c'est Yvonne.
Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen.
Un conseil, chérie, si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle.
Sympa pour moi.
Toi, t'es con, ouais, là, nia, Amélie.
T'es contente de faire ça, toi?
Complique l'autre main, t'es gros nao.
Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name, Yvonne Nguyen.
T'es complètement aveuglé parce que tu passes une audition pour un gros projet. Ils t'ont mis dans une case, Yvonne.
Con nhớ ba nói gì không? Mình có tài, phải cho đi.
Dans la cuisine des Nguyen, un film que j'ai bien aimé, et vous aussi, je pense,
oui,
Louise Véronique.
Oui, c'est un bon film divertissant.
Ouais.
Et encore là, un personnage féminin qui veut évoluer, qui veut faire ce qu'elle aime. Et
Yvonne
Nguyen. Elle rêve de faire de la comédie musicale, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, mais elle se bute à toutes sortes d'obstacles. Parce que ce n'est pas facile, vers l'âge de 38 ans, de percer dans le domaine, surtout qu'elle n'est peut-être pas trop conforme aux normes physiques de l'industrie du spectacle.
Et en plus, elle a des traits asiatiques et ça rebute certaines personnes qui passent des auditions pour un rôle qui demande quelqu'un de non-asiatique.
C'est ça, mais elle est déterminée. Et ce film nous plonge dans l'univers de la comédie musicale, de la fantaisie, du rêve. Alors, il y a beaucoup d'alternance entre des scènes très, très, très comédie musicale, très chantées,
oui,
dansées.
À la Hairspray.
Oui, et aussi, on revient donc dans sa réalité. Et dans la cuisine, c'est la cuisine de sa mère, oui, qui tient un restaurant. Ce que j'ai
sa
beaucoup...
mère qui est, permettez-moi l'expression, oui, attachante.
Attachante, oui, d'une
mais
certaine façon.
On l'aime, puis en même temps, des fois, elle nous agace.
Elle nous agace. Mais ce sont des rôles de femmes de 70 ans.
Ouais.
Et il y a aussi son amie, qui, donc les deux complices dans le restaurant. Et c'est beau de voir des femmes.
Sa tante.
Parce
qu'elle va, elle
est
a
avec
son fils.
Qui est son cousin, ouais, en fait. Oui. Mais c'est dans la même parenté, disons. Mais c'est beau de voir des personnages féminins de cet âge-là aussi qui ont un rôle important dans le film. On a remarqué aussi peut-être la voix, on a reconnu la voix de Thomas Joly, qui incarne un metteur en scène, mais c'est aussi le metteur en scène de Starmania et aussi de l'ouverture des Jeux olympiques, mm-hmm, de Paris. Alors,
mais est-ce que c'est lui?
Oui, c'est lui.
Ah,
oui,
je l'avais,
oui,
pas reconnu.
Mais oui, c'est lui. Mais oui, mais oui.
Ah, il est bon.
Il est bon. Oui, oui. Bien, oui, ben oui. Et quand il a dit que quand il a tourné ce film, c'était pour lui une sorte de récréation parce qu'il était en plein dans la préparation des Jeux olympiques.
Et lui, il aime beaucoup ce que fait Yvonne.
Oui, il aime beaucoup fait Yvonne. Alors, c'est un film très divertissant. Puis on apprend aussi sur la cuisine vietnamienne, sur il y a peut-être des petites tensions entre la mère et la fille, mais c'est aussi un film qui montre des personnages gays aussi, qui sort un peu des normes et je trouve ça très très agréable, mmh, à regarder.
Sur la transmission,
sur la
aussi,
transmission
des valeurs.
Et il y a beaucoup beaucoup de musique, hein, beaucoup de variétés de musique, donc du Broadway. Comme de l'âge d'or du Broadway, du disco, de la pop, groupes, de la musique vietnamienne aussi, de chanter.
Avez-vous nommé qui incarne le rôle principal?
Mais c'est Claudine de Chevalier. Oui. Et c'est son premier grand rôle au cinéma.
Elle est bonne.
Elle est très bonne.
Et le réalisateur Stéphane Lee Kwong.
Oui, c'était un grand fan de comédie musicale. Il a même fait un spectacle, un cabaret, et il y a plusieurs années, et il a repris le personnage de Yvonne dans ce film.
Alors, c'est amusant.
C'est amusant.
C'est touchant aussi.
Oui, très touchant. C'est au cinéma du Musée à partir du 28 février.
Ah, le 28, OK.
Oui.
Le 28?
Oui.
C'est un vendredi, le 28? Je pensais que
c'était
le 27. Ouais.
Le 27.
En tout cas,
le 27 ou le 28, mais ce sera en salle... la semaine suivante.
Parfait. Pendant qu'on est dans les précisions, la chanson de Robert Charlebois a été écrite par Daniel Thibon et la musique est de Robert Charlebois. Et on poursuit avec le film qui va ouvrir le Festival international du film pour enfants de Montréal, qu'on appelle aussi le FIFEM, Lydia et le vaisseau des tempêtes.
Il y a des choses qu'aucun livre au monde ne peut t'apprendre. Tu dois d'abord être capable de les ressentir. Lydia?
Bonjour les enfants!
Nous revoilà!
Une pierre de mémoire.
Elle m'avait fait promettre de te la donner si tu décidais un jour de devenir astromagicienne.
J'ai tout compris. Je suis prête.
À mon poste, allez, l'Archimon et la misaine!
Je suis le capitaine Chadiou et voici la professeure Ambrosia.
Tu as l'art de t'attirer des ennemis comme personne n'en voulait.
Comment es-tu tombé dans la mer des brumes?
Une tempête s'est brusquement levée. Et mon frère Thaddeus, il y avait quelqu'un en loin qui l'attirait vers la mer.
Nous l'avons surnommé l'envoûteur.
Dis-moi où se trouve mon frère!
L'équipage est le meilleur qui soit. T'as de la chance d'être tombé sur nous.
Est-ce que vous avez déjà retrouvé beaucoup d'autres enfants?
À part toi,
Attila, Pegasus.
Pour pratiquer l'astromagie, tu dois te concentrer et t'ancrer à tes souvenirs.
Testudo, Sagita.
Toi. Ça n'a pas l'air facile du tout.
Je sais que ce n'est pas facile. J'ai eu tellement peur.
Je sens en toi la même volonté et la même détermination qu'elle.
Oh, bestiole.
En bougeant, capitaine. En
avant,
capitaine.
Lydia et le vaisseau des tempêtes, film d'animation. On reconnaît d'ailleurs plusieurs voix connues. Hein?
Oui, connues, entre autres, bien sûr...
Sophie Nélis,
qui incarne la petite Lydia âgée de 11 ans. Elle fait la voix dans la version en français et dans la version en anglais également.
Bilingual,
perfectly.
Bilingual, oui, merci de prendre. Alors, c'est un film de qui? Il y a plusieurs réalisateurs, on dirait.
Plusieurs réalisateurs. Le scénario de Émilie Rosas. Rosas, je pense qu'on le prononce comme ça, et qu'elle a co-réalisé avec Philippe Arsenault-Bussière et Nancy Florence Savard. C'est inspiré de deux livres écrits par Yves Ménard, Le vaisseau des tempêtes, mais aussi Le prince des glaces, qu'on peut lire aux éditions Mediapol. C'est une maison de production située à Québec, j'aimerais quand même le mentionner, et qui avait produit autrefois Katak, le brave Beluga, qui avait eu beaucoup de succès.
10e Avenue Production.
Oui, exactement. Alors, c'est la petite Lydia, 11 ans, qui est très téméraire, très brave, très courageuse, qui veut retrouver son frère qui a été enlevé par l'envoûteur. L'envoûteur qui est un adolescent, en fait, un adolescent un peu mal dans sa peau, qui veut récupérer les souvenirs des enfants.
Ah!
Alors, oui. Donc, c'est... elle va être rescapée par un grand navire, le dauphin, avec un capitaine, avec un mousse, avec un équipage. Et elle va vouloir être une astro-magicienne, donc devenir apprentie. On est dans le fantastique total. Et c'est vraiment de la magie sous-marine. On vole dans les airs. Il y a des batailles, mais il y a aussi En fait, c'est un film d'apprentissage. Cette jeune fille va apprendre beaucoup sur elle-même, par ses erreurs également. Et donc, il y a des personnages adultes qui vont vraiment
la guider.
Il y a beaucoup, beaucoup de chansons dans ce film.
Ah oui?
Oui, beaucoup de musique. On a entendu un peu la musique dans la bande-annonce, une sorte de musique de traditionnelle irlandaise, on pourrait dire. Et
bon.
Mais c'est un film qui est très agréable à regarder, je dirais, non seulement pour les enfants, mais aussi pour la famille.
C'est ce que j'allais vous dire. On n'est pas nécessairement le public cible, non. Mais c'est un film familial.
Un film familial. Et,
on parlait de la voix de Sophie Nélisse, oui. Là, qui incarne Lydia, oui. Mais il y a d'autres voix
aussi.
Oui,
il y a d'autres voix. Il y a celle de la grand-mère Dorothée Berryman. Le capitaine, c'est Anthony Cavanagh.
Ah oui? Est-ce qu'il fait bien ça?
Oui, il fait bien ça. Oui, oui. Ça paraît-il qu'il s'est beaucoup amusé à faire ce film, cette voix. Puis il y a aussi Evelyne Gélina qui fait l'astro-magicienne.
Oui, je lis aussi Gilda Roy, Guinadon.
Oui, oui, qui ont des petits rôles.
Reconnaissables entre toutes.
Reconnaissables entre toutes. Il y a un petit clin d'œil au film de Harry Potter parce qu'il y a aussi dans ce film l'école des astro-magiciens.
Bon, alors, bien merci d'avoir vu tous ces films-là pour nous, Louise-Véronique Sicotte. Donc, votre première étoile va à...
je dirais dans la cuisine des Nguyen, parce que c'est un film tout à fait divertissant. Et deuxième étoile, je dirais ex aequo avec Lydia et le vaisseau des tempêtes.
Lydia, le vaisseau des tempêtes, qui prend l'affiche le 20 février, mais qui va ouvrir le festival demain. Le
demain.
FIFEM.
Oui,
merci beaucoup, Louise-Véronique Sicotte. À la prochaine.
À la prochaine.
La chanson « Messi » de Lola Young.
Oui, qui a été récompensée lors des récents Grammy grâce à cette merveilleuse chanson. Alors, les Olympiques hockey pour les gars, le match de hockey de quart de finale opposant les Canadiens aux Tchèques. Eh bien, le résultat, ils sont en première période, Canada 1, Tchéquie 0. Pas de médaille pour Laurie Blouin et Juliette Pelcha au slopestyle surf des neiges. Et je voulais absolument féliciter en patinage de vitesse les Canadiennes qui ont remporté l'or. C'est une nouvelle fois l'or qui décore les patineuses du Canada sur longue piste à la poursuite par équipe. En arrivant sur la première place du podium aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, les Canadiennes ont défendu le titre qu'elles avaient remporté lors des derniers Jeux d'hiver à Pékin en 2022. Terminant les 6 tours de l'anneau de glace en 2 minutes et 55,81 secondes. 81 secondes, Valérie Maltais, Ivani Blondin, dis-je bien, et Isabelle Wideman ont ainsi battu leur rivale néerlandaise qui, elles, ont franchi la ligne d'arrivée après 2 minutes et 56,77 secondes de course lors de la finale de 2022. Les Canadiennes avaient établi un nouveau record olympique de 2 minutes et 53,44 secondes qui n'a pas été battu lors des Jeux de Milan-Cortina. C'est l'équipe japonaise qui a décroché le bronze en défaisant les Américaines lors de la petite finale. Sonné et Étienne Gallois forment un duo improbable dans Mon coloc de 80 ans, une nouvelle série proposée sur l'Extra ici tout.tv. L'émission réalisée par Michael Gouin, qui s'est d'abord fait connaître comme acteur, raconte l'histoire d'un jeune adulte de 30 ans qui décide d'emménager avec un colocataire de 80 ans parce qu'il n'a pas les moyens de vivre seul. Il s'agit d'une adaptation de l'émission canadienne My 90-Year-Old Roommate. La série comprend 8 épisodes de 6 à 8 minutes qui seront diffusés sur la plateforme de diffusion le 26 février. Ici Hélène Denis, merci beaucoup Mathieu Tessier. Merci à vous. On se retrouve demain à compter 9h30 en direct.